Bonsoir à toutes et à tous, un nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire. Ce soir avec un invité prestigieux, je vous le présente d'ici quelques minutes. C'est presque rien, le journalisme avait coutume de dire, Hubert Beuve-Méry, le fondateur du journal Le Monde. Sans doute d'ailleurs aurons-nous le plaisir de demander à notre invité de nous fournir sa propre définition du journalisme. En tout cas, ce soir, un entretien avec un écrivain passionné, passionné pour la géographie et les pays producteurs de matières premières, un dingue de cyclisme, peut-être un peu moins maintenant, un auteur et un homme dévoré par le démon de l'écriture qui a publié son premier roman en 1991. Il est l'auteur de plus de 20 livres, parmi lesquels des romans, Un territoire fragile, Caresse de rouge, qui a été couronné par le prix François Mauriac en 2004. Il y a eu Korsakov, votre septième roman, qui lui a été récompensé par le prix roman France Télévisions en 2004. Et puis, il y a en 2007 ce prix Femina pour Baiser de cinéma. Et en 2010, le grand prix des lectrices de Elle pour le très émouvant L'homme qui m'aimait tout bas. Et puis, moment crucial dans sa vie, son entrée au monde, puis sa nomination à la tête du quotidien des élites, journal de référence de la presse écrite française, on dirait même d'utilité publique, journal qui fêtera ses 70 ans l'année prochaine. Éric Fotorino, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous d'être devant le micro de l'émission littéraire de Radion. Alors ce soir, on va avec vous parcourir votre tour du monde que vous faites paraître chez Gallimard. C'est un récit de votre vie, finalement. Vous expliquez pour quelles raisons vous choisissez la voie du journalisme. Et justement, je disais en introduction qu'on allait peut-être avoir l'occasion de vous demander qu'est-ce qu'être journaliste, qu'est-ce que le journalisme. Alors, il y a ce mot d'Henri Béraud que vous citez, vous dites que le journaliste est un flâneur salarié.
Oui, c'était une belle expression à une époque où probablement le temps passait moins vite qu'aujourd'hui. Je dirais que en 2012, en 2013 maintenant, être journaliste, c'est pour moi d'accepter d'être bousculé par le réel. Et le réel, c'est exactement l'inverse de ce qui se passe sur un écran, c'est-à-dire d'aller voir, d'aller respirer, d'aller écouter, d'aller se mêler à la vie. Et d'accepter d'être bousculé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'arriver sans préjugés, sans idées toutes faites, sans idées préconçues, et d'accepter qu'à un moment donné, même le regard qu'on peut poser sur le monde, du fait de son éducation, du fait de ses études, etc., puisse être complètement chamboulé par ce qu'on va voir. Donc pour moi, il n'y a de journalisme qu'en prise directe avec le réel, avec la réalité. Et quand Beuve-Méry a fondé Le Monde en 1944, il a cité lui Peggy. Il a dit « Nous dirons la vérité, tristement la vérité triste, bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse ». Ça voulait dire que cette quête de la vérité, c'est probablement quelque chose qui n'est pas spectaculaire, qui quelquefois même peut être un peu décevant. Et la tentation des médias aujourd'hui, mais ça a toujours été, est de grossir pour faire en sorte que précisément cette vérité qui n'est pas si excitante que ça prenne des tours presque manichéens ou de grands guignols. Donc pour moi, il y a cette idée du réel et de ramener les choses à leur juste dimension. Voilà.
Et puis vous dites aussi, le journalisme, c'est aussi s'indigner. C'est très tendance aussi maintenant, là, il y a un mouvement des indignés. Alors...
C'est vrai, mais je pense, si vous voulez, là, pour le coup, c'est la formule d'Albert Londres, tromper la plume dans la plaie, c'est-à-dire que le journaliste est aussi un idéaliste, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'il est naïf, mais c'est quelqu'un qui espère que la manière dont il relatera des événements pourra aussi contribuer, sinon à changer la face du monde, mais en tout cas à rendre plus intelligible la société dans laquelle on vit et du coup la rendre peut-être plus juste, plus égalitaire, plus acceptable pour ceux qui souffrent notamment. Et c'est vrai que pour moi, s'indigner, je me souviens quand je dirigeais l'équipe des reporters au Monde dans les années 90, j'avais publié une double page dans le Monde avec les bonnes feuilles d'un livre d'une médecin-chef de la santé, Véronique Vasseur, ça avait fait énormément de bruit. Ils avaient même, les autorités de la santé avaient même rouvert aux journalistes la santé, qui était fermée depuis des années, pour montrer que c'était pas aussi terrible que ce que disait le brûlot de Véronique Vasseur. Mais j'ai eu le sentiment, moi, en publiant ces pages, que j'avais, pour reprendre votre expression tout à l'heure, accompli une mission d'utilité publique. Parce que, du coup, la situation des détenus a probablement changé après l'apparition de ces pages.
Au niveau de l'indignation, par exemple, il y a un moment, vous êtes un peu presque écœuré par le fait que le monde ne va pas assez loin, notamment dans les relations de la France et de l'Afrique, et notamment autour de cette personnalité étrange, qui revient d'ailleurs dans l'actualité, Charles Pasqua, par exemple.
Oui, disons que c'était un conflit qui m'a opposé à l'époque à Edoui Plenel, qui dirigeait la rédaction du Monde. Moi, j'étais rédacteur en chef. Non, je n'étais pas encore rédacteur en chef, j'étais grand reporter. Et j'avais mené une enquête assez lourde, difficile en Afrique. Dans le contexte, on était dans pleine cohabitation Balladur, vous vous souvenez, Balladur-Mitterrand, et il se disait que Charles Pasqua essayait de lever des fonds, de l'argent en Afrique pour le compte de Balladur. Et donc j'ai enquêté sur ces questions-là, j'ai trouvé beaucoup de choses sur les relations avec Elf, etc. Et à l'époque, mon supérieur hiérarchique a considéré qu'il ne fallait pas publier, en tout cas sous cette forme-là, les textes que j'avais écrits. Et c'est vrai que j'ai les regrettés parce que plusieurs années après, lorsque l'affaire Elf a vraiment éclaté, j'ai eu la preuve que ce que j'avais écrit et qui n'a pas été publié était la réalité, notamment à propos d'un nommé Léandri, qui était l'ancien chef de cabinet ou un collaborateur de Charles Pasqua et qui travaillait pour Elf dans les emplois fictifs.
Alors, être journaliste au Monde, vous l'écrivez, j'étais journaliste au Monde, que dis-je ? J'étais reporter à tout l'univers, je prenais mon passeport pour une encyclopédie portative. C'est vrai que le slogan du Monde dans les années 90, c'était « Le Monde, le plaisir de savoir ». Donc, pour savoir, il fallait partir sur le terrain. Oui. Le journaliste aussi, c'est celui qui a peu vu sa famille. Vous dites souvent « Mes filles ont plus souvent vu mes valises que leur papa ».
En tout cas, pour mes filles aînées, qui maintenant ont 28 et 26 ans, donc le temps a passé, mais c'est vrai, quand elles étaient enfants, j'étais un père courant d'air et qui courait, mais qui revenait de temps en temps, évidemment, heureusement. Mais c'est vrai que quand vous faites ce métier, vous palpitez en même temps que l'actualité. Et lorsqu'on vous demande de partir, et moi, ce qui était mon cas, j'étais un peu une sorte de chevau léger, comme on dit. C'est-à-dire que vous partez un jour au Panama, un jour à Moscou, un jour en Afrique. Et j'aimais ça, j'avais l'impression d'être devenu Tintin. À la différence près que Tintin, on ne le voit jamais écrire d'article. Moi, j'écrivais mes reportages.
D'ailleurs, on va marquer, si vous le voulez bien, Éric Fotorino, une première pause musicale. J'ai retenu d'ailleurs un titre que vous mentionnez dans les premières pages de votre Montour du Monde chez Gallimard. C'est On the Road Again. C'est Bernard Lavilliers. J'ai pensé que c'était une chanson de circonstance, que ça vous ferait plaisir.
Très bon choix.
Qu'on l'illustre, enfin qu'elle serve d'illustration à notre échange. On se retrouve dans quelques minutes avec notre invité, Éric Fotorino.
Nous étions jeunes et larges des peaux. Bandit joyeux, insolent et drôle. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Au petit jour, on quittait l'Irlande. Et derrière nous, s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again, again. Des fleurs sauvages, n'y pense plus, tu es de passage. On the road again, again.
Toutes vos chansons préférées.
On the Road Again, c'était Bernard Lavilliers. Effectivement, on disait, Eric Fotorino, que le journaliste, c'est celui qui sort de son petit bureau. Oui. Alors, quand on découvre, en vous lisant le journal Le Monde, on découvre que c'est pas forcément des locaux prestigieux. Il y a des gens qui sont dans des... Oh, j'ai peur d'exagérer, mais dans des cagibis, en tout cas dans des placards. Et vous découvrez ça, oui. Vous êtes très jeune, quand vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui travaillent dans des conditions... En tout cas, d'un confort précaire au monde.
Ah, ça, c'est sûr. Voyez, on a écouté Lavilliers quand il dit nous étions jeunes et larges d'épaules, nous attendions que la mort nous frôle. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup inspiré, cette peur un peu aussi que vous pouvez ressentir quand vous partez sur des théâtres. Même si, pour ma part, j'ai été rarement sur des théâtres de guerre. Mais le siège du monde, la rue des Italiens, quand j'y vais pour les premières fois, je découvre un lino vraiment piteux, en piteux état, des lumières jaunasses, des murs aussi jaunes, blancs, on ne sait pas trop, et puis des étagères et des armoires qui menacent de se casser la figure à tout moment, et puis des bureaux qui sont quasiment des cellules de moines, quelquefois qui n'ont pas d'ailleurs de fenêtres, donc avec un éclairage, je me souviens de Paul Fabra, qui était un grand économiste au Monde, et qui avait un bureau, mais qui je trouve était indigne, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis que c'était quand même incroyable qu'il travaille dans ces conditions-là.
Alors, il faut quand même que je précise à nos auditrices et auditeurs que vous êtes licencié en droit, vous êtes diplômé en sciences politiques, vous recevez votre carte de presse, en fait, il y a 30 ans que vous avez reçu votre carte de presse, c'était en 1983, et vous êtes, au moment où vous entrez au Monde, vous êtes le plus jeune journaliste du Monde à l'époque.
Ça a duré 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai été le plus jeune journaliste du Monde. Après, j'avais contribué à faire engager une jeune femme qui était formidable, qui s'appelait Françoise Lazare, qui était une grande spécialiste du dollar et des monnaies, et qui malheureusement est décédée il y a quelques années après un très très grave accident qui l'avait défiguré. Et c'est vrai que d'avoir été un jeune journaliste au Monde, pour moi, c'était important parce que j'avais le sentiment que ce journal avait une identité tellement forte. Moi qui avais une identité tellement creuse, je ne dis pas faible, mais en tout cas qui me cherchait tout le temps, j'avais l'impression d'être rassuré par ces grosses colonnes grises que représentait le Monde, parce qu'il savait où il allait, il avait non pas une idéologie, mais il avait des valeurs, et on pouvait se raccrocher à ces valeurs, toute cette déontologie. Et du coup, c'est vrai que d'être un jeune journaliste au Monde, ça m'a formé autant que ça m'a aidé à informer les autres.
Mais ce qui est incroyable, c'est que vous dites, vous écrivez que vous seriez rentré au Monde, même à genoux.
Oui, parce que, alors là encore...
Pourquoi cette espèce d'admiration qu'on pourrait penser presque outrancière pour ce quotidien ?
C'est-à-dire que, alors là, il y a un petit peu de mon histoire. C'est effectivement que moi, pendant très longtemps, je me suis vécu comme un futur coureur cycliste. Donc, j'étais très loin du monde intellectuel. Hein, j'étais très, très loin des études. Et je dis pas ça comme une posture. C'est vraiment la réalité. C'est que j'ai appris plus tard. Mais jusqu'à 18, 19 ans, j'ai pas fait grand chose d'autre que de faire du vélo. Et puis, mon père, quand j'ai fait du droit, m'a donné un jour ce quotidien. Il me l'a mis, je me souviens, sur une chaise de la cuisine en me disant, si tu veux étudier le droit, je pense qu'il faut que tu lises ce journal. Donc, ça a été vraiment un don, mais un don de la part de mon père. Et le premier article que j'ai écrit, j'avais 20 ans dans le monde, je l'ai envoyé, il a été publié. Et ça, c'était miraculeux pour moi.
Et quelqu'un qui vous téléphone et qui vous dit, Eric, tu devrais regarder, achète le Monde, il y a ton article.
Il y a ton article. Et si vous voulez, pour moi, c'était comme des signes un peu mystérieux, mais qui ont un sens. Et je me suis dit, peut-être que ce journal, ce sera ma maison un jour. Et donc, si vous voulez, en plus, je mesurais bien le prestige que pouvait encore avoir un journal comme Le Monde il y a 30 ans. Je ne dis pas qu'il n'en a plus aujourd'hui, mais la crise de la presse est passée par là. Tout ça, c'est un peu banalisé. On est dans un monde de l'image et du numérique. Mais dans la presse papier, à la sortie des années 70, Le Monde a un magistère et un prestige. On dit que c'est le journal de référence. Et encore aujourd'hui, dans Le Monde, il y a 5 ou 6 journaux qui comptent. Et Le Monde fait partie de ces journaux qui comptent.
Je pense que les professeurs de géographie ou les professeurs d'économie en lycée continuent, je pense, à faire des photocopies, à donner des articles du Monde à leurs élèves. Moi, je sais, j'ai bientôt 42 ans. Dans mon adolescence, je l'ai lu à partir de l'âge de 14 ans, nos enseignants nous conseillaient de lire Le Monde. C'était un journal, en plus, d'une neutralité politique
qui a peut-être un peu évolué. Au-dessus de la mêlée, même s'il a eu après des engagements à gauche, pour Sarkozy à un moment donné. Enfin, il y a eu des convulsions.
Alors, vous avez expliqué donc que vos débuts, vous stagiaire à Libération, vous parlez des vestes roses de Serge July, et puis des expériences incroyables, donc à travers vos premiers reportages, par exemple cette descente dans une mine en Moselle, 3000 mètres sous terre. Là aussi, c'est plus dans l'indignation, c'est dans quand même la méfiance et peut-être la peur.
Oui, c'était un peu Zola. C'est-à-dire que ce jour-là, je me souviens très bien, j'étais stagiaire à Libé, c'était l'été 82. Et j'étais au service économique. Et je n'avais jamais pris l'avion de ma vie, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais en 82, j'avais 22 ans, j'avais jamais pris l'avion. Et donc, le même jour, je savais que j'allais prendre l'avion pour aller en Moselle et que j'allais descendre après à 3000 mètres. Et je me disais, il va forcément se passer quelque chose, soit en haut, soit en bas. Et donc, à la fois, j'étais excité et j'appréhendais. Et je pense d'ailleurs que ce métier, c'est toujours une sorte d'hésitation entre la peur et l'excitation. Et évidemment, tant que l'excitation est plus forte que la peur, il faut y aller. Le jour où la peur devient plus importante, il faut faire attention. Et là, j'étais tellement heureux de faire ça que j'ai pris cet avion, je suis arrivé en Moselle, on est descendu, on nous a équipé un peu avec des lampes sur les casques. Et puis j'ai vu ces boyaux qui sont, enfin moi qui suis assez claustrophobe quand même, en tout cas qui n'aime pas trop les endroits confinés, là j'ai été servi parce qu'on a fini la travée, la tranchée, le boyau même, on rampait pour aller vers la petite lumière qui nous indiquait la sortie de cette visite au fond des mines.
Éric Fotorino, je rappelle le titre de votre récit, Mon tour du monde, c'est aux éditions Gallimard. Le livre est sorti au printemps 2012.
Absolument. Oui.
Et on se retrouve dans quelques minutes, si vous le voulez bien. On va écouter Anaïs qui dit « Je n'embrasse pas les garçons ». Bonne soirée sur Radion.
Que l'amour frotte à l'âme son nom. Je n'embrasse pas les garçons, je n'écoute pas leurs chansons. On peut me traiter de glaçon. Je n'embrasse pas les garçons, non. Je n'embrasse pas les garçons, non. J'ai réfléchi pendant 5 minutes et j'ai décidé pour toujours. Tant pis s'ils me persécutent de fermer ma porte à l'amour. Non, je ne veux pas être en but à ses caprices, à ses culbutes. Pas de baiser, pas de dispute, pas de soupir, pas de rechute. On souffre, on pleure, on lutte, 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 lutte. Moi je dis flûte, 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 flûte. C'est vrai quoi? Mais bon. Je n'embrasse pas les garçons, je n'écoute pas leurs chansons. Je ne vais pas à Robinson. Je ne suis pas petit poisson que l'amour frotte à la maison. Non, je n'embrasse pas les garçons, je n'écoute pas leurs chansons. Non, non. Soyez médecin, sous-diplomate, docteur en lettres ou pharmacie, coiffeur, marchand de tomates, je vous dis non, 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 merci. Soyez chanteur ou numismate, ou bien docteur, homéopathe, marchand de billes, il y en a gâte, explorateur, vendeur de dates, et chez vous-même, êtes cul de jatte, jatte, jatte. Moi je dis votre amour me flatte, flatte, flatte. Non, c'est vrai, c'est très gentil, mais bon. Je n'embrasse pas les garçons, je n'écoute pas leurs chansons. Je ne vais pas à Robinson, je ne suis pas petit poisson que l'amour frotte à la main. Non, je n'embrasse pas les garçons, je n'écoute pas leurs chansons. On peut me traiter de glaçons. Je n'embrasse pas les garçons, non. Je n'embrasse pas les garçons, non.
Nous sommes en compagnie d'Éric Fotorino, ancien directeur du journal Le Monde, pour Mon Tour du Monde aux éditions Gallimard. C'est aussi une chance pour nous de l'avoir devant notre micro et de lui demander ce qu'est, à sa manière, ce métier de journaliste qui fait rêver beaucoup de jeunes gens, quand même, être journaliste, vouloir aller gratter, chercher la vérité, la mettre au grand jour. C'est une ambition pour beaucoup de jeunes gens. Vous écrivez, je tenais aussi à ce métier pour ça, être bouleversé. Vous racontez aussi, à certains moments, vous êtes reporter et vous rencontrez des gens de la France très populaire, des gens dans des situations ouais. quasi dramatiques. Je ne sais plus le prénom de cette mère et de cette fille.
Edith.
Voilà. Et là, par exemple, c'est aussi très émouvant.
Oui, c'était en Normandie, dans le Calvados. Et je me souviens, c'était une période, mais vous voyez, on est finalement condamné à revivre en permanence ce qu'on a déjà vécu, puisque c'était une période de plans sociaux. J'avais cherché par des associations des situations de personnes qui connaissaient le chômage de longue durée. Et on m'avait parlé d'un couple, d'une mère et de sa fille, qui portait le même prénom et qui vivait dans une petite ville de Normandie. Et j'étais allé les voir et elles avaient accepté, parce que vous entrez dans l'intimité des gens quand vous faites ce travail-là. C'est pas une théorie, c'est pas non plus une statistique. Vous avez en face de vous une personne, son histoire, ses souffrances, ses espoirs, sa vie quotidienne.
Et elles vous reçoivent chez elles, dans leur petit intérieur très modeste.
Elles me reçoivent chez elles. Et elles me disent toutes les petites stratégies qu'elles mettent en œuvre pour rester dignes et pour ne pas montrer aux autres, dont elles attendent qu'ils leur donnent du travail notamment, ne pas montrer aux autres qu'elles n'ont pas d'argent, qu'elles n'ont pas de quoi se changer de godasse, de changer d'habit, qu'elles ont des vieux habits, etc. Et donc, si vous voulez, c'était très émouvant parce que c'était très concret. Et c'est vrai que c'était un reportage qui, non seulement qui m'avait bouleversé, mais c'est vrai que je me souviens du courrier de lecteur que j'ai reçu à l'époque quand j'ai publié c'était toute une page dans Le Monde.
C'est une photographie d'une certaine France, finalement.
Voilà. Et si vous voulez, je date ce reportage à 95-96. Vous voyez, il y a plus de 15 ans de ça, ce sera bien 17-18 ans. Eh bien, je trouve qu'aujourd'hui, d'autres éditent. Mère ou fille vivent encore cette situation-là.
Donc c'est être journaliste, c'est être bouleversé, c'est aussi s'indigner. Alors c'est aussi rencontrer les témoins de l'histoire. Là, il y a toute une galerie de personnages remarquables qui ont joué un rôle à un certain moment dans les années 30. Une figure bouleversante et qui a laissé une trace dans l'histoire que vous avez côtoyée.
Côtoyer est un bien grand mot, mais c'est vrai que j'ai rencontré Nelson Mandela peu de mois après sa libération.
Et c'était un moment quand même assez extraordinaire, presque de grâce. C'est-à-dire que je me souviens, on était dans le hall d'un établissement public, est-ce que c'était l'Assemblée à Pretoria, et il est apparu avec à l'époque le président de Klerk, et c'était encore vraiment le moment où ils étaient tous les deux. Et je me souviens que quelqu'un a dit « surtout pas de flash ».
Oui.
Donc ne prenez pas de flash. Et alors, je n'ai pas compris tout de suite pourquoi. J'ai vu un homme arriver avec les yeux effectivement abîmés. Et j'ai compris, on nous a expliqué ensuite que toutes ces années qu'il avait passées de forçat, et notamment à casser des cailloux sur un îlot dans un soleil d'une lumière aveuglante, avait abîmé beaucoup ses yeux. Et donc, il ne supportait pas la lumière violente. Et il fallait toujours une lumière assez tamisée, assez douce. Et puis, cette douceur qu'il y avait, et cette volonté, cette humanité. Alors, vous voyez, cet homme qui avait été... Vous vous souvenez peut-être qu'avant la libération de Mandela, on n'avait qu'une seule photo de lui. C'était une photo d'un homme jeune qui ressemblait à un boxeur. Il avait les cheveux tressés de sa tribu, et il avait vraiment une tête qui faisait un peu peur, qui était vraiment, on sentait une violence. Et quand on voit ce visage apaisé de Mandela, on voit tout le chemin parcouru par cet homme, le chemin d'humanité, parcouru pendant toutes ces années de détention, et la réflexion qu'il a eue sur comment faire que son peuple gouverne l'Afrique du Sud, reprenne le destin de son pays sans déclencher la guerre civile avec les Blancs.
Alors on a dit effectivement des voyages aux quatre coins du monde et puis des figures exceptionnelles que vous rencontrez. Bon, je pense que Nelson Mandela, c'est une figure exceptionnelle. Mais des Français, hein, Michel Rocard, Dominique Strauss-Kahn, ça peut être une Jane Birkin que vous rencontrez, qui vous parle de Serge Gainsbourg. Peut-être que vous pourriez en dire un petit mot pour les auditrices et auditeurs de Radion.
Oui, c'était une rencontre très riche avec Jane Birkin. C'est quelqu'un qui vous happe tout de suite, elle vous tutoie, elle vous emmène dans son salon, dans sa salle de séjour où il y a des disques partout, des photos partout, des vidéos, etc. Et puis, donc, c'était pour les 15 ans de la mort de Gainsbourg. Et je me souviens qu'on a longuement parlé de lui, mais aussi d'elle. Et d'ailleurs, j'avais fait un papier qui s'appelait Jane, Gainsbourg et encore Jane. Parce que ce qui m'avait passionné, bien sûr, c'est ce qu'elle disait sur Gainsbourg, mais aussi ce qu'elle disait sur elle. Et elle était la fille d'un grand résistant britannique et puis d'une grande comédienne de théâtre. Qui jouait dans le théâtre victorien et qui n'aurait jamais accepté qu'on voit même un peu une manche, un bras avec de la chair nue. Et donc d'imaginer que sa fille a fait ce parcours, c'était évidemment une sorte de transgression. Et elle me racontait notamment que le jour où son père est mort, elle s'est diffusée en boucle pendant toute une journée 3 minutes de film de la BBC qui avait filmé le mariage de ses parents. Et elle m'a dit, je les ai regardés toute la journée se marier, n'arrêtaient plus de se marier.
Et puis elle vous raconte des choses très amusantes sur la jeunesse de Gainsbourg, qui s'allongeait sur les billards dans les bistrots et qui disait, je ne me retire pas du billard tant que vous ne me payez pas un verre. C'est très drôle aussi. Alors, il y a je reviens à vos débuts au Monde, rue des Italiens, donc la salle des téléscripteurs aussi, qui vous impressionne énormément. Le sous-sol du bâtiment, alors donc l'imprimerie et tout. Sous-sol, donc il y a un bruit qui fait vibrer les locaux. Et puis vous parlez de quelqu'un, d'Olivier Merlin, qui déambulait le matin en robe de chambre dans les locaux du Monde.
Oui, parce qu'Olivier Merlin était un homme très talentueux, moi je ne l'ai pas connu, mais qui était le chroniqueur théâtral du Monde. Et donc il passait toutes ses soirées au théâtre. Et il avait obtenu d'avoir une petite cagna, un espace comme ça où il pouvait dormir. Donc il arrivait très tard, vers 1h, 2h du matin. Il fallait quand même son papier tôt le matin. Donc il écrivait son papier sur place, il le laissait et il dormait. Il réapparaissait en début de matinée pour voir au marbre si son papier avait été bien composé dans une robe de chambre.
Éric Fotorino, on marque une nouvelle pause musicale. Un titre, je ne sais pas s'il annonce ce dont on va parler juste après, c'est « Coups et blessures » et ce sont les Bébés Brunes. Bonne soirée sur Radio, on se retrouve dans quelques minutes avec notre invité, Éric Fotorino, pour « Mon tour du monde » paru aux éditions Gallimard.
Je me détraque à
Blessure, Eric Fotorino, finalement, on en reçoit des coups et on est aussi un peu blessé quand on devient directeur du Monde. Vous devenez le 7e directeur du Monde, vous succédez à Jean-Marie Colombani, c'est en 2007. Et vous basculez, vous le dites, du statut de journaliste à celui de dirigeant. Et là, vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez pas les réseaux, que vous ne vous êtes pas encore créé l'univers dont vous avez besoin pour être soutenu dans une tâche que vous aviez peut-être sous-estimée en tant que directeur du Monde.
C'est-à-dire qu'il y a eu une accélération à un moment donné qui a fait que non seulement je suis devenu directeur du Monde, ce qui était déjà une lourde tâche, mais que je suis ensuite, 6 mois plus tard, après une crise interne dont je vous épargne les détails, je suis devenu président du groupe Le Monde, c'est-à-dire du directoire du Monde. Et c'est là qu'effectivement, j'ai dû assumer des tâches pour lesquelles je n'étais pas préparé, dans le sens où c'était des tâches de gestionnaire. Il a fallu mettre en œuvre un plan social, vendre des actifs, vendre les cahiers du cinéma, la presse jeune, et aller chercher des capitaux extérieurs pour recapitaliser Le Monde qui en avait besoin après toutes les pertes qu'il avait enregistrées dans la décennie 2000. Donc autant j'étais prêt, et je pense préparé sur la dimension éditoriale, puisque j'avais réfléchi à la nouvelle formule du Monde. C'est d'ailleurs ça qui m'avait amené à être d'abord directeur de la rédaction, puis ensuite à être élu directeur du Monde. Mais la tâche de président du groupe Le Monde, c'est-à-dire avec sa dimension financière et puis aussi administrative, c'était effectivement quelque chose auquel je n'étais pas préparé, et tout le monde le savait de toute façon. Mais je suis allé chercher des gens qui, eux, étaient évidemment très compétents, comme Louis Schweitzer, qui était l'ancien patron de la Régie Renault, et David Guiraud, qui était l'ancien patron du groupe Les Échos. Et c'est avec eux que j'ai fait ce travail, bien sûr. Mais politiquement, eux n'étaient pas des historiques du Monde. Moi, j'étais là depuis plus de 20 ans. Et donc, évidemment, tous les coups à prendre, c'était vers moi qui pleuvait, parce que je faisais partie de la maison, je faisais partie des meubles. Et donc, on me reprochait, évidemment, de vendre Le Monde, de réduire la voilure. Et simplement, moi, je disais à mes confrères, je leur disais, mais nos comptes font que, si on ne fait pas ces efforts-là, on se fera ramasser, on fera faillite, on sera, et le sort du monde se jouera à la barre du tribunal de commerce pour rien du tout. Donc je disais, bien sûr que les efforts qu'on a à faire sont très désagréables, mais si on ne les fait pas, on sera balayé.
Alors vous êtes élogieux avec David Guiraud, donc qui va être le gestionnaire, donc qui vient des Échos, oui. Avec Louis Schweitzer, pour qui vous vouez quand même une grande admiration. En revanche, à l'égard d'Alain Minc, vous êtes moins dithyrambique. Vous écrivez « Il n'était de prime abord que mépris et suffisance ». Et même à l'égard de Jean-Marie Colombani, on sent quand même... Je me demande, s'ils ont lu votre livre, quels ont été les retours.
Écoutez, Alain Minc a lu mon livre parce qu'il m'en a parlé. Et il m'a dit qu'il y avait une phrase qu'il n'avait pas aimée. Ah, genre, s'il n'y en a qu'une, finalement, c'est
ça
pas
va,
trop grave.
Sur, vu l'épaisseur du livre. Ouais,
bon, quand j'écris, Alain Minc n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Et il m'a dit ça, vraiment, ça m'a heurté parce que vous ne connaissez pas toutes mes amitiés, etc. Bon. Et je lui ai dit, mais écoutez, au monde, je n'ai jamais vu que vous aviez des amis. Ah, mais oui, mais le monde, c'est particulier. Mais je lui ai dit, oui, mais c'est là que nous vivions ensemble. Bon, en fait, si vous voulez, moi, ce que j'ai reproché à Alain Minc, c'était deux choses. La première, c'était d'avoir entraîné le monde à partir des années 2000 dans des dépenses insensées, somptuaires, qui n'étaient pas du tout dans les moyens du monde. Et la deuxième, le deuxième reproche que je lui ai fait, ça a été, compte tenu de l'endettement qui a pesé sur le monde, de l'amener tout droit vers la perte de contrôle au profit du groupe Lagardère et du groupe espagnol Prisa. Et ça, moi, j'ai toujours considéré, et ça a été d'ailleurs un de mes... l'élément de mon bras de fer avec le président de la République, si on peut dire ça comme ça. Moi, je n'étais pas que directeur du monde.
Je vais vous demander de nous parler de Nicolas Sarkozy.
Mais c'est vrai que le fait que Minc ait voulu que le monde passe sous la coupe du groupe Lagardère, Arnaud Lagardère n'a rien à faire des médias, il s'en moque, je trouvais que c'était une mauvaise manière, une mauvaise stratégie pour le monde. Donc j'ai toujours défendu cette thèse et encore aujourd'hui, je la défends.
Alors, vous devenez le directeur du monde, mais il y a des reproches qui vous tombent aussi sur le coin de la figure, c'est que vous êtes écrivain. Et on vous dit, il faut que tu choisisses, c'est Edwy Plenel qui vous dit, je crois que c'est bien avant
bien
que vous
soyez
directeur, il vous dit, il faut que tu choisisses si tu es journaliste ou si tu es écrivain. Alors, la question, finalement, Éric Fotorino, elle est simple, peut-on être écrivain, auteur récompensé par un prix Femina, et être journaliste, et notamment d'une des rédactions d'un quotidien, une des rédactions les plus compliquées, soi-disant, des quotidiens de la presse française.
Esther, mon expérience est assez douloureuse de ce point de vue-là, parce que, si vous voulez, il y a eu une sorte de coïncidence ou de conjonction, c'est-à-dire que ma reconnaissance comme écrivain est arrivée dans les années 2005-2010, et c'est le moment aussi où j'ai eu les plus hautes responsabilités à la tête du monde. Donc, évidemment, il y a eu une sorte de télescopage, c'est-à-dire que, pour certains, on ne pouvait pas décemment être à la fois occupé à diriger le monde et à écrire ses livres. Ce que les gens n'ont pas compris, ne comprennent souvent pas, c'est que on n'est pas à mettre dans des cases. Moi, je considère que je suis les deux et que j'ai toujours été les deux et que ça me permet précisément de m'apporter de la liberté. C'est-à-dire que je crois que je n'aurais jamais pu effectuer mes missions à la tête du monde si je n'avais pas eu comme un jardin secret les moments où je me retrouvais à écrire des pages. Alors effectivement, moi je ne demande pas aux gens quand ils rentrent chez eux s'ils vont regarder un film à la télé ou si le dimanche ils vont aller jouer au foot avec leurs enfants ou quoi. Si moi je fais du vélo et j'écris, ça me regarde et ça a été vraiment mon garde-fou pendant toutes ces années. Et quand je vois mon ami Eric Israelevitch, qui vraiment on était très proches et on était restés très proches, il m'a succédé à la tête du Monde et malheureusement il est décédé il y a 2 mois. Eh bien moi je considère que l'équilibre que j'ai pu garder, c'est parce que précisément, malgré les difficultés du monde, j'avais la possibilité d'écrire et j'avais la possibilité de pédaler.
Alors, par exemple, Nicolas Sarkozy au téléphone, on va reparler de Nicolas Sarkozy, mais le 22 mai 2010, il vous téléphone, et pardonnez-moi, j'ai l'impression même qu'il vous engueule un peu, et il vous dit, vous êtes un cumulard, quand cesserez-vous à la fin d'écrire des livres et de vouloir diriger la rédaction la plus compliquée de France? Il va falloir choisir, on ne peut pas faire les deux, et très, très injonctif, Nicolas Sarkozy, il est quand même président de la République, il appelle le directeur d'un journal, certes, mais bon, il veut une presse un peu à ses ordres, on va en reparler un petit peu. Dirions-nous que vous avez eu des déboires avec le président de la République?
Ah oui, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que Nicolas Sarkozy, il est élu président de la République. Moi, je venais d'être élu directeur du Monde quelques semaines plus tôt. Alors, je n'établis pas de parallèle, mais ce que je veux dire, c'est que mon mandat de directeur, c'était le mandat de la société française à l'ère ou à l'heure de Sarkozy. Et donc, moi, je n'ai jamais dit à la rédaction du Monde, on doit faire un journal anti-Sarkozy. Je trouvais que c'était absurde. Il fallait, au contraire, faire un journal mesuré. On avait trop souffert par le passé, justement, de prises de position qui me paraissaient pas du tout à la hauteur de ce qu'était le Monde. Donc, on a eu une couverture, je crois, très mesurée, la plus profonde possible, la plus sincère possible. Mais Sarkozy considérait qu'on était toujours contre lui. Et donc, je ne compte pas les coups de téléphone qu'il m'a passé après des articles où il était en désaccord avec nous. Et donc, je lui expliquais en quoi je trouvais qu'il se trompait ou qu'il ne lisait pas notre journal ou qu'il le lisait de façon biaisée. Et donc, ça s'est dégradé, nos relations sont dégradées, jusqu'au jour où il a considéré que le Monde devait choisir pour se recapitaliser un actionnaire qui m'a tout de suite indiqué ça doit être Lagardère. Et à partir de là, moi j'ai considéré avec mes équipes que Lagardère n'aurait pas été un bon actionnaire pour le Monde. Et là, effectivement, moi j'ai négocié avec Carlo Benedetti en Italie ça a été très houleux avec le chef de l'État qui m'a même menacé de ne pas donner au Monde les sommes publiques auxquelles il avait droit pour moderniser son imprimerie si j'allais vers un autre actionnaire que Lagardère.
Alors en fait, vous le rencontrez une première fois alors qu'il est ministre de l'Intérieur.
Hein, oui.
C'est donc bien avant c'est avant 2007, avant son élection,
c'est 2006.
Et vous dites il flatte l'écrivain pour mieux critiquer le journaliste. Et alors vous écrivez des choses absolument incroyables. Page 417. Vous dites que Sarkozy parle de Carla. Et puis il y a cet épisode avec la montre aussi. J'aimerais que vous le racontiez. C'est consternant.
C'est-à-dire que c'est un déjeuner à l'Élysée, comme il en faisait de temps en temps, avec quelques éditeurs et puis des éditorialistes. Il y avait là Olivier Nora, le patron de Grasset. Il y avait là Jacques Julliard, l'éditorialiste connu. Bien. Et à un moment donné, la conversation, enfin son monologue, parce qu'un déjeuner avec Nicolas Sarkozy est président, c'est toujours un monologue. Vous écoutez. Et il nous dit quand même cette Carla, quelle artiste, parce qu'elle venait d'enregistrer un DVD. Et puis il sort sa montre, il la décroche de son poignet. Il nous dit, elle m'a acheté une montre la plus chère.
C'est une Patek Philippe,
c'était une Patek Philippe avec tout un tas de choses. Et donc il nous fait tourner la montre comme ça à table, dans le sens des aiguilles d'une montre justement. Et chacun de s'esclaffer et devant cette montre magnifique. Voilà, donc c'était.
Ah, vous dites d'ailleurs, vous en avez gardé, je vous cite, une désastreuse impression.
Oui, ah oui, parce que finalement c'était ça un déjeuner avec le président de la République. Et il y avait un tel décalage entre l'image que vous faites d'un chef d'État. Et puis, cet homme qui vous parlait un langage assez vulgaire, qui avait des manières assez grossières, je trouvais qu'il y avait là un abaissement de la fonction. Et d'ailleurs, plus tard, quand j'ai écrit un éditorial qui s'appelait « Une affaire de style » pour critiquer le style de Nicolas Sarkozy, il a dit que mon éditorial procédait d'une démarche fasciste.
Oui. Et par exemple, aussi, vous écrivez, vous rapportez les propos de Nicolas Sarkozy, qui vous dit « Je ne suis pas comme Giscard, qui sautait tout ce qui passait là-bas, dans ce qui est aujourd'hui le bureau de Guéant. » Et puis, il y a incroyable ce que Sarkozy dit, là aussi, vous êtes plusieurs à l'entendre dire ça, il écrit « Mon prochain statut sera ancien président, et celui-là durera très longtemps, alors je ferai comme Bill, comprendre Clinton, ou comme Tony, comprendre Blair, je ferai des conférences, et là je me bourrerai. » Et là, la personne qui vous accompagnait, je ne sais plus si c'est un éditeur, c'est peut-être
Olivier
Nora, qui vous dit « Mais
est-ce qu'on a bien entendu ?»
On a bien entendu, et je me bourrerai, vous l'écrivez, c'est pas se bourrer avec du vin, c'est se bourrer de pognon.
D'ailleurs, toutes ces citations ont été reprises dans la presse après la parution de mon livre et au moment de la campagne présidentielle. Je dois vous dire qu'à aucun moment, ces propos n'ont été démentis. Je veux dire par là que, vous savez, moi, quand je quittais un rendez-vous important pendant lequel je n'avais pas pu prendre de notes, dès que j'étais dans la voiture, je sortais mon carnet et je notais tout. Moi, je suis quelqu'un de quasiment malade de mémoire. C'est-à-dire que j'ai une sorte d'hypermnésie. Il y a même des choses que j'aimerais oublier, que je n'arrive pas à oublier. Eh bien, ces phrases, elles résonnent encore dans mon oreille, comme le cumulard. C'est-à-dire que j'ai noté ça pour être bien sûr que j'avais bien entendu ça. Mais je savais que j'avais bien entendu ça. Et lorsque, un an et demi après, j'ai repris mes notes, j'ai ressorti toutes mes archives pour écrire mon livre, que j'ai relu ça, j'étais encore sous le choc, désastreux de l'effet qui était produit par de telles déclarations d'un, encore une fois, du chef de l'État.
On est bien d'accord, c'est la raison pour laquelle moi-même j'ai trouvé ces pages consternantes et je voulais quand même qu'on s'y arrête. Éric Fotorino, je voulais qu'on parle un tout petit peu de votre père, on n'aura pas le temps. J'ai lu L'homme qui m'aimait tout bas, ça m'a beaucoup ému, votre père adoptif, Michel Fotorino, qui se suicide l'année de ses 70 ans.
C'est-à-dire l'année, 3 mois après, je sois devenu directeur.
C'est ça, c'est en 2008, mars 2008, et ça aussi, ça a été pour vous encore très difficile de gérer.
D'ailleurs, ça a été une épreuve, et effectivement, ce que n'ont pas compris certains, heureusement la plupart des journalistes du Monde l'ont bien sûr compris, mais vous avez toujours des gens qui sont un peu comme des apparatchiks ou qui comprennent pas bien et qui m'ont reproché d'avoir fait un best-seller avec la mort de mon père. Et à cela, j'ai essayé de leur expliquer que pour moi, ce livre, c'était indispensable de l'écrire. D'abord parce que la douleur était telle qu'il n'y avait pas de mots que je pouvais dire. Je ne pouvais plus parler, donc j'ai écrit. Et ça a duré, effectivement. C'est un livre que j'ai écrit très rapidement, une dizaine de soirées et deux week-ends. Mais c'est parce que je l'ai écrit que j'ai pu continuer à faire mon travail de directeur du Monde. Et ça, les gens, quelquefois, sont un peu obtus et ne comprennent pas que l'écriture vole à votre secours et que ce n'est pas du temps que vous prenez à qui que ce soit.
Et je vous cite, vous l'écrivez dans Mon tour du monde chez Gallimard, « La littérature serait pour longtemps, livre après livre, une exploration douloureuse de mes racines incertaines, un travail d'exhumation de secrets, de non-dits. » En tout cas, merci d'en avoir révélé quelques-uns à notre micro. Les auditrices et auditeurs peuvent prolonger notre entretien avec votre livre « Mon tour du monde, récit » aux éditions Gallimard et puis lire vos autres livres. Je conseillerais aussi en folio, en poche, « L'homme qui m'aimait tout bas ». C'est très émouvant. Merci, Éric Fotorino, d'avoir été l'invité de l'émission littéraire de Radio. Avant de nous séparer et de boucler ce 102e numéro de Wagon Livre, quelques informations culturelles. Ne pas oublier quand même que le 40e Festival International de la BD d'Angoulême ouvre ses portes demain et ce jusqu'au 3 février prochain. Plus proche de nous, cette fois-ci, c'est à Tonnerre, c'est à la médiathèque Ernest Cœur de Roi, aura lieu samedi 2 février à 18h l'inauguration de l'exposition Lyon et la guerre d'Espagne organisée par l'association Mémoire historique des républicains espagnols. Et puis, le 10 février prochain, de 9h à 18h, se tiendra le Salon du Livre de Valence à la salle polyvalente de ce village. Une trentaine d'auteurs y seront présents pour dédicacer leurs ouvrages. Je laisse maintenant la parole à notre invité, Laurent Ecquet. Bonsoir, vous êtes libraire à Vézelay, la librairie L'Or des Étoiles, située au 29 rue Saint-Étienne, une librairie dédiée à l'éveil, à la liberté, à l'indépendance de l'esprit. Et le site précise, votre site internet, « Loin des dogmes, des chapelles et des voies toutes tracées ». Alors, le choix de livre que je vous ai demandé pour les auditrices et auditeurs de l'émission littéraire de Radio ne va peut-être confirmer ces chemins éloignés un peu de la bien-pensance ou de ce dont on nous rebat les oreilles.
Très sincèrement, si je me mets à vous parler des livres dont on parle déjà dans les journaux, mon rôle n'aura un intérêt très limité. J'ai donc choisi de vous parler de quelques livres, quelques perles parmi d'autres, naturellement. C'est toujours très difficile de faire une sélection. La première qui m'est venue à l'esprit, c'est un ouvrage paru au printemps 2011 de Lydie Data, connue par ailleurs pour le Livre des Anges, connue également pour une bouleversante réflexion biographique sur la vie de Jean Genet qui s'appelle La chaste vie de Jean Genet et qui a publié au printemps 2011 un ouvrage qui s'appelle La foudre, paru au Mercure de France. Lydie Dattas a été, dans sa vie, a connu une expérience extrêmement forte. Elle était la fille d'un organiste de la cathédrale Notre-Dame de Paris et d'une actrice de théâtre. Pendant 25 ans, elle a été mariée à Alexandre Bouglione. Et avec lui, elle a fondé le cirque Lydia Buglione, qui, quand ils se sont séparés, après ses 25 années d'expérience, donc, est devenu le cirque Romanès. Voilà, simplement pour situer le personnage et le cadre dans lequel elle a puisé le terreau de cet ouvrage, qui s'appelle La Foudre, et qui m'est tombé entre les mains, juste à sa sortie, quelques jours avant sa sortie, je le reçois, et ça tombait très bien, ce jour-là était un de mes rares jours de congé, les libraires n'en ont pas beaucoup en général, et même quand ils en ont, ils sont avec les livres. Et j'ouvre ce livre et je ne l'ai pas lâché jusqu'à la fin. Je vous promets que d'un bout à l'autre, ça a été comme un éclair qui m'a traversé effectivement. Le style est d'une force, d'une violence presque, que je dirais quasiment implacable, qui vous traverse littéralement. On adhère pas. Je ne veux pas imposer cette passion pour cet ouvrage à tout le monde, mais je crois qu'un tout petit extrait va vous en donner la couleur. Mon père était le dieu des souffles, organiste titulaire de Notre-Dame. On venait de loin entendre son trépignement d'ange, né de parents illettrés dont il était le miracle. Ses yeux noirs étaient si graves qu'ils semblaient maquillés. Il appartenait à cette race de jeunes gens dont la beauté janséniste est si pure que leur seule apparition nous redresse. Des générations de pauvres avaient gratté la terre noire du Gers avant d'obtenir ce musicien angélique. L'invisibilité de l'organiste exauçait son admirable vœu d'effacement. Ami de l'abbé Steinmann, il avait avec lui des conversations hérétiques. Profitant d'un temps mort de la messe, il s'éclipsait de son banc pour se livrer dans un recoin obscur de la tribune au rite méconnu des organistes pissant dans une bouteille. J'ai grandi sous un buffet d'orgue. Assise près de mon père sous le hennissement doré des tuyaux de montre, j'assistais à des improvisations jupitériennes. Tirant les registres, enfonçant les jeux d'anche, il mettait de l'ordre dans les atomes de l'air, déclenchant une apocalypse sonore. Les sonorités seigneuriales de l'orgue plaquaient leurs mains sur mes épaules. De tous les gros boutons de porcelaine blanche, celui qui me fascinait le plus était le tutti, qui, lorsque mon père le tirait, donnait au ciel un orgasme divin. Je m'agrippais de mes mains miniatures au banc de bois noir comme on s'accroche à la selle d'une moto, de peur d'en être arraché par le souffle. Ma mère surgissait à la fin de la messe, debout près du grand orgue dans son imperméable rose, fixant mon père de ses beaux yeux datés, sa bouche laquée de rouge happant tous les regards. Elle était l'apparition de la folie venue vérifier sa puissance. Lydie Dattas, La Foudre, à lire de toute urgence, si je peux me permettre. Le second choix que je vous propose est un ouvrage assez brûlant également. C'est peut-être pour nous réchauffer en cette période de l'année où la température est souvent en dessous de zéro. C'est un essai de Jacqueline Kellen, Impatience de l'absolu, sous-titre Face au genre inhumain. C'est paru à la Table Ronde, c'est une parution plus récente, si ma mémoire est bonne, c'est printemps 2012, et automne 2012, ça fait partie de la rentrée littéraire 2012, comme on dit en général quand on est dans le métier, et c'est construit un petit peu comme un journal, où Jacqueline Kellen note, au fur et à mesure du voyage de sa pensée, où elle note ce qu'elle observe de notre mode de vie, et de ses contemporains, de la manière dont nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés modernes dites développées, et dans les pays développés en particulier, dans les pays dits riches également, et dans cette société qui s'appelle société de loisirs dont elle parle, où on cherche à procurer à chacun une sorte de bien-être forcé, fait de jeux et d'achats permanents, je la cite, de réseaux virtuels, d'images et de bruit à profusion, et pour rehausser le repas, on rameute l'éthique, l'écologie, la solidarité et les droits de l'homme, et on engloutit tout, et on se déclare content, et on en réclame toujours davantage. Voilà un petit peu le ton du livre. C'est un pamphlet qui invite à une réflexion assez profonde sur le sens de nos pratiques et de nos modes de vie. Le ton qu'emploie Jacqueline Kellen est tout sauf complaisant. C'est un ouvrage qui n'est pas du tout, mais pas du tout politiquement correct. Et si vous avez envie de d'aider votre esprit à bouger, je dirais, de remettre en cause un certain nombre des clés qui structurent nos sociétés. Je vous invite vivement à lire ce texte remarquablement écrit, la langue, la plume. Jacqueline Kellen est trempée dans le sang de la vie, elle est d'une grande qualité, et c'est un ouvrage qui remue véritablement en profondeur. On n'est pas dans la fiction, hein, je le précise bien, on est vraiment dans la réflexion philosophique, sociétale, et c'est un ouvrage que je recommande à toute personne qui aime et qui a envie de réfléchir. Jacqueline Kellen est par ailleurs une spécialiste des mythes, elle a beaucoup écrit sur la chevalerie, par exemple, elle a beaucoup écrit sur les mythes masculins et les mythes féminins. Et là, elle nous livre quelque chose de très personnel, de très intime, qui est un cri de révolte, en quelque sorte. Hein. Et le titre du livre traduit bien cette révolte face au genre inhumain, c'est le sous-titre, « Impatience de l'absolu ».
Alors, 2:30 sur un gros livre sorti à l'automne dernier, Laurent.
Les éditions Bartilla ont eu la très heureuse idée, après des années de tractation, je dirais, d'éditer, grâce à Jean Lacoste, qui en est le directeur de la publication et qui a réalisé toute l'étude et toutes les notes de l'ouvrage, et donc dirigé l'ensemble, le journal de Vézelay, 1938-1944 de Romain Rolland. Romain Rolland est un écrivain dont la réputation a largement dépassé non seulement les frontières de la Bourgogne, mais également les frontières de la France. Dans le monde entier, on a lu et on lit encore Romain Rolland, peut-être plus qu'en France. Hein, je connais bien des francophones du monde qui lisent Romain Rolland, alors que je m'interroge parfois sur sa présence sur les étagères de nos contemporains. Je pense que ce journal est une excellente occasion de le redécouvrir, hein, de découvrir la profondeur d'un homme qui arrivait à l'apogée de sa vie. Romain Rolland est âgé quand il arrive à Vézelay, quand il achète cette maison située à quelques mètres d'ici, rue Saint-Étienne. Il arrive là donc en 1938. On est à la veille de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe va mal. Romain Rolland, qui a été un compagnon du Front populaire, va à la fois subir l'occupation allemande et le régime de Vichy. Et il va écrire, raconter ce qu'il voit, ce qu'il entend. Bien sûr, il va parler des Vézeliens, de quelques Vézeliens, mais à mes yeux, c'est sans doute pas le plus intéressant. Le plus intéressant, même s'il y a des choses parfois croustillantes, dont il faudrait peut-être vérifier l'exactitude, parfois d'ailleurs, parce que naturellement, on ne peut pas empêcher dans ce genre d'ouvrage le phénomène de la rumeur, du on-dit. Hein. Le journal livre des choses de manière brute, notées au quotidien. Mais Romain Rolland reçoit des intellectuels, des philosophes, des artistes de partout. Le grand germanophile qu'il était est torturé par cette vision qu'il a de l'Allemagne qui est en guerre contre le reste de l'Europe. Et les visites qu'il reçoit, que ce soit celle du Corbusier, celle de Claudel, avec lequel il va échanger une très importante correspondance, sont des moments tout à fait passionnants, très enrichissants, qui livrent vraiment la méditation d'une âme vivante, bouleversée par ce qui se passe dans le monde autour de lui, et qui, depuis sa retraite vézelienne, livre cette très belle, très profonde, souvent méditation, parfois désabusée, mais toujours néanmoins pleine d'espoir.
Donc c'est le journal de Vézelay, les journal années 1938, date de l'arrivée de Romain Rolland à Vézelay jusqu'à sa mort
et
en 1940.
À la lecture de ces années du journal, on espère qu'une chose, c'est que tout ce qui précède, puisque Romain Rolland meurt en 1944, c'est donc la fin de son journal, on espère que toutes les années antérieures seront publiées un jour, parce que si la qualité est comparable, ça laisse devant nous des heures et des heures de lecture tout à fait passionnantes.
Édition donc présentée et annotée par Jean Lacoste, et c'est aux éditions Bartilla. Merci beaucoup Laurent Ecquet. Je rappelle donc que vous êtes libraire à Vézelay, librairie L'Or des Étoiles, au 29 de la rue Saint-Étienne. Et je vous remercie de nous avoir fait ce choix pour les auditrices et auditeurs de Wagon Livre. Je donne d'ailleurs rendez-vous à celles et ceux qui nous ont écoutés mercredi prochain, 6 février à 21h, pour un nouveau numéro de Wagon Livre. Je recevrai Josiane Maxel pour Personnages de Lyon, paru aux éditions du Panier d'Ortie, une excellente occasion de redécouvrir des femmes et des hommes célèbres, il y en a beaucoup d'ailleurs à Vézelay, qui ont marqué l'histoire de notre beau département. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. À mercredi prochain sur Radio.